VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Au Kenya, la population vote depuis ce matin dans le cadre des élections générales. À la présidentielle, le chef de l'État Uhuru Kenyatta fait face à son grand rival Raila Odinga. Le point avec Solange Nyamulisa.
Environ 19 millions de Kenyans doivent choisir leur président, gouverneur, sénateur, député et élu locaux. Hier, le président Uhuru Kenyatta a appelé les Kenyans à se déplacer massivement pour voter dans la paix. Son principal adversaire, Raila Odinga, trois fois candidat malheureux à la présidentielle, a lui aussi appelé les électeurs à se présenter en grand nombre. Il a assuré que le déploiement de plus de 150 000 membres des forces de sécurité a pour but d'intimider les électeurs. L'ancien président américain Barack Obama, dont le père est né au Kenya, a lui aussi appelé les Kenyans à œuvrer pour des élections pacifiques et crédibles. La campagne a été marquée par l'assassinat d'un responsable informatique de la commission électorale et de nouvelles accusations de fraude de la part de l'opposition. Ce qui fait craindre de troubles. En 2007, les violences post-électorales avaient fait plus de 1000 morts.
En Afrique du Sud, le Parlement se prononce aujourd'hui sur une nouvelle motion de défiance contre le président Jacob Zuma. L'opposition espère cette fois-ci que le vote à bulletin secret va encourager des députés de l'ANC au pouvoir à lâcher le chef de l'État sud-africain, Morgan Guiriek.
La présidente du Parlement, Baleka Mbete, a annoncé hier que le vote se fera à bulletin secret. L'opposition est convaincue de pouvoir retourner des députés de l'ANC si ces derniers ne subissent pas la pression d'un vote à main levée. La motion de défiance pour passer doit recueillir la majorité simple à 201 voix sur les 400 au Parlement. Forte de sa confortable majorité de 249 sièges, l'ANC s'est empressée d'assurer qu'il n'y a aucun doute sur l'échec de cette mesure. Le Parti communiste allié de l'ANC a réitéré son appel à la démission du président Zuma, sans pour autant donner de consigne de vote. Jacob Zuma, dont le mandat expire en 2019, a déjà survécu à trois motions de défiance. En décembre prochain, l'ANC doit élire son successeur à la tête du parti. Parmi les favoris, l'actuel vice-président Cyril Ramaphosa, chef des frondeurs anti-Zuma, et Nkosazana Dlamini-Zuma, l'ancienne patronne de l'Union africaine, qui bénéficie du soutien de son ex-mari.
En RDC, l'opposition au président Joseph Kabila teste sa capacité de mobilisation ce mardi avec une journée ville morte, diversement suivie dans le pays. Première d'une série d'actions pour tenter d'obtenir le départ du chef de l'État. Sans être à l'arrêt total, l'activité tournait au ralenti à Kinshasa, la capitale, où l'opposition avait invité les habitants à rester chez eux pour paralyser l'économie. Par contre, situation normale à Lubumbashi, la seconde ville du pays dans le sud-est. Idem à Kananga, principale ville du Kasaï. La vie poursuit également son cours à Bukavu, dans le sud Kivu, et à Kisangani, la métropole du nord-est. RCA, des signes avant-coureurs de génocide émergent en Centrafrique où les violences redoublent. C'est ce qu'a estimé un haut responsable de l'ONU en réclamant davantage de militaires et de policiers pour la MINUSCA, la mission de maintien de la paix de l'ONU dans le pays. Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires, Stephen O'Brien, a fait ce constat en présentant à une réunion de l'ONU hier le bilan de récents voyages menés en Centrafrique et en République démocratique du Congo. La semaine dernière, le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix, le français Jean-Pierre Lacroix, avait indiqué qu'il envisageait de demander au Conseil de sécurité de doter la MINUSCA de davantage de troupes. Au Tchad, un militant soutenant l'ex-candidat à la présidence, Laokein Médard, a été arrêté hier. Et samedi, Mahamat Adoum, chef d'un parti d'opposition tchadien, a été appréhendé avant d'être libéré dimanche. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
La police a mis aux arrêts à Moundou le militant Bruno Gelkor. Il imprimait depuis une semaine des t-shirts où c'est marqué, je cite, « Collectif soutenant Laokein, libérez-le ». Dimanche, Mahamat Adoum a été relâché par le procureur qui lui a dit qu'il n'y avait pas de charge retenue contre lui. Il avait été arrêté samedi à Moundou lors d'une altercation entre la police et une délégation de chefs de parti d'opposition venus soutenir l'ex-candidat à l'élection présidentielle et ex-maire de Moundou, Laokein Médard. Ce dernier a été arrêté arrêté le 13 juillet et mis en examen le 17 pour détournement de biens et complicité. Il est actuellement détenu à la prison de Mundu. Arrivé en troisième position à la dernière présidentielle d'avril 2016, Laokéine Médard a été destitué de son poste de maire fin juin par le conseil municipal de Mundu.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, la commune de Diafarabé a reçu une visite peu ordinaire des islamistes armés qui sévissent depuis un certain temps dans le cercle de Ténénkou, région de Mopti, dans le centre du pays. Les assaillants ont mis un terme à la célébration de mariage avant d'arrêter des femmes qui y étaient. Les djihadistes ne veulent plus de célébration de mariage avec faste, musique ou autre jouissance populaire. Les détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Le week-end passé, un notable de Diafarabé célébrait le mariage de sa fille. Aux environs de 17h, une dizaine de djihadistes lourdement armés ont fait éruption dans sa famille, tirant des coups de feu en l'air. Pris de panique, les femmes et les enfants se trouvant sur les lieux ont pris la tangente pour ceux qui n'étaient pas hypnotisés de peur. Les terroristes ont détruit à coups de Kalachnikov tous les matériels qui servaient d'animation et de sonorisation. Ils ont saccagé la cuisine et ont emporté tout ce qu'ils avaient comme nourriture. Les minutes qui ont suivi, les terroristes ont continué à tirer en l'air en obligeant les commerçants qui sont dans les alentours à sortir de leur boutique pour venir écouter leur speech improvisé pour la circonstance. Dans leur intervention, ils ont condamné toute célébration de mariage en pompe, car cela, d'après eux, est contraire à l'islam. Après quelques échanges, les populations de Diafarabé sont parvenues à les supplier de libérer les femmes qu'ils avaient prises en otage. Mais les kidams ont juré de revenir bientôt pour vérifier que leurs instructions sont respectées et punir les éventuels récalcitrants en appliquant tout simplement la charia. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Niger voisin, on est toujours sans nouvelles des 39 personnes, dont 33 femmes, enlevées par les djihadistes de Boko Haram au début du mois de juillet dernier dans un village de la région de Difa, dans le sud-est du pays. En visite récemment dans la zone, des responsables du HCR ont lancé des appels en faveur de fonds pour aider les populations dans le besoin. De Niamey, le reportage de notre correspondant Abdoul Razak Idrissa.
Au début de l'année 2017, l'État nigérien et ses partenaires ont élaboré un plan global de réponse humanitaire qui a mis un accent particulier sur la région de Difa, victime des attaques répétées de la secte Boko Haram. La mise en œuvre de ce plan bute cependant sur les difficultés de financement, notamment Mahamane Lawa Magaji, ministre de l'Action humanitaire.
Le plan de réponse humanitaire a prévu à peu près 271 millions de dollars pour l'année 2017. Dans ces 271 millions, la région de Difa a à peu près 140 millions de dollars qui étaient prévus pour l'année 2017 et les partenaires humanitaires, la communauté humanitaire a mobilisé à la date d'aujourd'hui à peu près 31% de ce montant-là. Donc c'est dire qu'effectivement il y a beaucoup qui reste à faire en ce qui concerne donc la région de Difa pour pouvoir venir en appui et c'est pourquoi nous lançons en tout cas un appel à tous les partenaires au développement, les humanitaires qui aident les autres humanitaires qui interviennent au Niger de voir dans quelle mesure renforcer cela.
En charge du volet protection des réfugiés dans le cadre de ce plan, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés semble être le plus confronté aux difficultés dans la mobilisation des fonds pour assister ces populations. Une délégation de haut niveau de l'organisme a été récemment sur le terrain pour s'enquérir des conditions de vie des dites populations. Valentin Topsoba est le directeur du Bureau Afrique du HCR.
En ce qui concerne le groupe de réfugiés nigériens qui sont basés essentiellement à Difa, nous avons à peu près 250 000 personnes sur un budget de 86 millions de dollars que nous avons besoin pour 2017 pour venir en aide à ces populations. Nous n'avons que 33 millions, mais ces 33 millions n'ont même pas encore été bouclés. Donc c'est pour vous dire que nous n'avons même pas 50% du budget pour pouvoir faire face à tous ces problèmes-là. On a déjà dépassé les 6 mois de l'année et on ne sait pas comment on va faire vraiment pour joindre les deux bouts du mois.
Un plaidoyer appuyé par les autorités nigériennes, surtout du fait de la nouvelle démarche du HCR dans la prise en charge des réfugiés, estime le ministre de l'Action humanitaire du Niger.
Le HCR a une démarche aujourd'hui qui est celle d'intégrer les réfugiés et les populations hôtes qui sont elles-mêmes en déplacement pour tenir compte plutôt de la vulnérabilité que du statut de la personne pour lui donner un appui. Donc par rapport à ça, on peut dire que beaucoup reste aussi effectivement à chercher pour cette institution-là.
Abdoul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.